Bonjour à tous, je suis Guillaume Mazoyer en compagnie de Camille Feuerzen.
Bonjour Guillaume, l'Auteur Libéré lance sa série de podcasts mensuels.
Oui, l'occasion de faire un retour sur l'actualité franco-québécoise du mois sous différents angles.
Sans oublier des entrevues inédites.
Sans plus tarder, on lance la revue de presse en bref.
Dans la rubrique politique-économie, l'ancienne ministre française de la Justice, Christiane Taubira, est venue faire un tour à Montréal mi-mars pour parler déchéance de nationalité, radicalisation et jeunesse. Une conférence intimiste organisée pour l'occasion par le club Jean Jaurès, qui a permis à Madame Taubira de rencontrer de jeunes militants du Parti Socialiste, mais aussi des électeurs de tous bords politiques. Ils ont pu lui poser leurs questions depuis la loi sur la déchéance de nationalité jusqu'au lendemain des attentats de Paris en novembre dernier. L'occasion aussi pour ce public jeune et averti de partager leurs préoccupations politiques et sociales concernant leur pays d'origine. Et puis la présidente du Front National, Marine Le Pen, est passée par le Québec à la fin du mois de mars pour une visite aux couleurs patriotiques. Entre célébration de la francophonie et mise en ordre de marche de ses troupes pour les prochaines échéances électorales, Madame Le Pen a aussi monopolisé les médias québécois durant quelques jours, sans être toutefois accueillie par les politiciens de la province. Fiscalité, prestations sociales, suppression de la binationalité ou multinationalité, la candidate à la présidence de la République a partagé sa vision de la France de 2017. Quelques manifestations hostiles se sont aussi déroulées tout au long de son séjour.
Dans la section culture, plusieurs groupes français sont venus fouler les planches de salles de spectacle montréalaises. C'est le cas notamment du trio de DJ Birdie Nam Nam le 19 mars dernier à l'Olympia. Le groupe s'est offert une date unique en Amérique du Nord avant de repartir pour le vieux continent entre deux rendez-vous à New York pour parler business, dit l'un des membres du groupe, DJ Need. Birdie Nam Nam prévoit la sortie d'un nouvel album en juin prochain, autoproduit et surtout entièrement gratuit. Cinq jours plus tôt, toujours à l'Olympia, le public montréalais a dansé grâce aux voix de L.E.J. Ce trio composé de trois jeunes françaises de 22 ans, Lucie, Elisa et Juliette, est connu pour ses reprises de chansons populaires, dont son mash-up intitulé Summer 2015, vu plus de 47 millions de fois sur YouTube. Appréhendant la réaction d'un public nord-américain, L.E.J. a réalisé un triomphe, démarrant du bon pied leur tournée. Et puis, si vous ne le saviez pas, l'Outarde Libérée vous l'apprend, l'homme idéal existe, il est québécois. En tout cas, c'est selon l'auteur franco-belge Diane Ducret qui a publié son livre du même nom à la rentrée 2015. Notre journaliste Charlotte Lopez a réalisé un entretien avec l'auteur à voir sur loutardelibérée.com.
Dans la rubrique Société, l'Outarde met de l'avant un projet social et solidaire né au Québec et qui se propage aujourd'hui en France, l'accorderie. Basée sur l'échange entre des services, l'accorderie a pour premier objectif de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Aide pour un déménagement, réparation de voiture ou cours de musique, la liste des services est variée et une heure de service donnée est égale à une heure de service reçue. Le Québec compte aujourd'hui quelques 8000 adeptes de ce système qui se déroule intégralement. Sans échange d'argent. Côté écologie, cette fois, l'agriculteur français qui a terrassé Monsanto, Paul François, était en visite à Montréal fin février. L'occasion pour ce producteur de céréales charentais de revenir sur le procès historique gagné contre le géant américain. Il a aussi mis en garde les agriculteurs contre l'épandage de pesticides et poisons dans l'agriculture intensive. Monsieur François a gardé des séquelles permanentes depuis son intoxication aiguë due à une inhalation d'un herbicide vendu par Monsanto. Il continue aujourd'hui de militer. Statistiques médicales et analyses chimiques à l'appui.
Notre rédactrice en chef, Nathalie Simoncler, nous présente deux reportages qu'elle a réalisés ce mois-ci.
Alors ce mois-ci, l'ambassadrice de l'Union européenne, Marianne Coninck, était en conférence à Montréal, à l'invitation du CORIM. Alors que le Canada s'interroge sur la survie de Schengen, eh bien je lui ai posé la question.
Et je ne crois pas que Schengen va disparaître, hein, j'ai entendu ici, certainement pas. Le problème avec Schengen, c'est d'abord ce qu'on a obtenu avec Schengen en ouvrant les frontières, c'est extraordinaire. C'est un acquis que moi je trouve qu'on ne peut pas aller en arrière. Mais, et ça n'a pas, peut-être pas toujours bien fonctionné, Schengen c'est comme une monnaie, c'est les deux côtés d'une monnaie. Un côté, c'est liberté de voyager, pas de frontières à l'intérieur. Mais l'autre côté de la médaille, c'est renforcer le contrôle aux frontières externes. externe, et ça n'est pas, ce n'est pas fait suffisant. On a besoin de ces frontières renforcées. C'est aussi un élément de sécurité. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, et je comprends, parce qu'on ne veut pas donner l'impression que parmi les réfugiés, on dit qu'on est contre que ces réfugiés entrent, parce qu'il y a des risques aussi, les terroristes entrent. Et c'est un fait. Que les bandes criminelles ou terroristes, ils utilisent aussi. C'est un fait, ça a été dit par des organisations européennes.
Alors, rassuré sur Schengen, eh bien, je lui ai demandé si l'accord conclu avec la Turquie ce 18 mars pour contenir les migrants au sol turc, si cet accord préfigurait d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne.
Personnellement, je ne crois pas que c'est, il y a une sorte de, comment est-ce qu'on dit ça, un commerce, un troc, un échange pour dire, la Turquie va nous aider et on leur offre. Non, les règles pour une adhésion, sont très strictes. Il y a des conditions très strictes. Et entre autres, il y a une question des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, et il y a certaines questions. Et uniquement quand toutes ces conditions seront remplies, parce que la demande d'adhésion de la Turquie ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis longtemps, et je crois qu'on continue les négociations, on n'a jamais interrompu les négociations, mais les conditions ne sont pas remplies pour l'instant. Et moi, je suis convaincue qu'au moment qu'ils vont remplir les conditions, que ça va se passer, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Donc pas de Turquie dans l'Union européenne pour le moment. Mais j'ai demandé à Marianne Koenig comment elle explique la défiance grandissante des peuples vis-à-vis de l'Europe.
L'Union européenne est trop modeste parfois de ce qu'ils font. Ça, c'est, on n'explique pas. Ça, c'est une chose. Nous sommes actifs dans tous les domaines. Et je crois que nous apportons énormément de choses. Et deuxième chose, il y a ces jours-ci, les gens prennent tout pour acquis. Moi, j'ai connu, quand j'étais tout jeune, je viens d'une région de la Belgique, mais mes parents, d'un côté, venaient de la Flandre et de l'autre côté de la Wallonie. Alors là, c'est un peu... Et je viens de Tongres, qui est la plus vieille ville de la Belgique, mais plus important, c'est 20 km de la frontière avec les Pays-Bas et 60 avec l'Allemagne. Moi, j'ai connu dans le temps, il y avait les frontières, on avait et par exemple de Pays-Bas, on pourrait pas importer du beurre et ne me demandez pas pourquoi les produits laitiers et en Allemagne pas des produits, la radio, les télévisions et tout ça. Je crois, et là je suis pas tellement vieille quand l'euro a été introduit. Moi j'ai beaucoup voyagé comme étudiant et c'était quand on était en France, on avait les francs français, en Allemagne, c'était pas facile quand on voyageait. Et on a introduit l'euro grâce, je dirais, à Jacques Delors. On l'a introduit et mon mari est allemand, on l'a introduit en Allemagne. L'année qu'on célébrait le 40e anniversaire du Deutsche Mark. Ça s'est fait sans aucun problème. Je veux dire qu'on a quand même réussi des choses qui sont extraordinaires.
Enfin, la diplomate a fait la promotion d'un programme peu connu au Canada et a lancé un appel aux jeunes Canadiens.
Chaque année, nous avons 4000 bourses de scholarship pour faire des masters. Ce sont des bourses avec... très confortable en ce qui concerne le paiement. 4 000 et il n'y a pas des quotas. Ça veut dire s'il y aura 3 000 Canadiens qui pourraient solliciter. Quand les Canadiens sollicitent, ils ont un haut taux d'admission, très haut. Ça veut dire qu'ils sont d'excellente qualité. Le problème, c'est qu'on a très peu des Canadiens, des étudiants qui postulent.
Voilà, l'appel est donc lancé. Ce mois-ci, pour l'Outarde libérée, j'ai rencontré Monique Chiroux, qu'on ne présente plus. Je l'ai rencontrée à Outremont, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Mais ce qui m'intriguait surtout, c'était de savoir à quand remontait sa passion pour la chanson.
Un des plus lointains souvenirs que j'ai, je dois avoir 4 ans. On fait un voyage d'un week-end à Burlington, aux États-Unis, avec mes parents. Et mes parents me disent « qu'est-ce que tu voudrais te rapporter en souvenir de moi ?» Et je dis un disque. Et puis j'ai choisi un disque des Chipmunks. Les Chipmunks, c'est des petits écureuils, si tu veux. Maintenant que c'est des chanteurs, puis on accélère, ça fait... Voilà. Il y a 33 tours de ça. Après, ça a été la collection interminable des premières positions du palmarès. Parce que dans ma tête d'enfant, ce que je n'avais pas compris, c'est que ça changeait et que ces 10-là n'étaient jamais les mêmes. Du coup, 47 ans plus tard, je continue toujours d'essayer d'avoir les 10. Je suis toujours pas arrivée. Est-ce que ça change encore? Ben, j'ai des souvenirs très précis de... dans la petite enfance, là, de C'est Jérôme. Kiss me, Angela, me.
Prends un coca et assieds-toi. Kiss me.
Donc, comme je connaissais les 45 tours, tout ce qui passait sur 45 tours, ça finissait chez moi. Donc, il y a dû y avoir du... Je me souviens avoir chanté « Femme de Nicole Croisé » il y a 7-8 ans. Ma mère ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Et je buglais ça dans la voiture, assise derrière, parce que je faisais beaucoup de route pour aller voir mes grands-parents. Puis on écoutait la radio non-stop chez nous. Ça s'ouvrait à 5h du matin, ça se fermait à pas d'heure. J'avais beaucoup d'oreilles, puis je chantais, j'apprenais très vite les chansons par cœur. Donc, c'était pas forcément des chansons de mon âge, c'est peut-être à part Colargol, chanté par Mireille, que j'ai su beaucoup plus tard que c'était Mireille qui chantait Colargol.
C'est moi qui suis Colargol, loup chante en fa, en sol, en do dièse, en mi bémol, en gilet et en focol. Le roi des oiseaux, vous le savez, mes amis, m'a donné un beau.
Les thèmes d'émissions comme ça tournaient. J'ai été amie avec le Sébarier, mais 40 ans plus tard, quoi. J'ai écouté les cassettes VHS de Saturnin chez lui à Montaligère, un jour de pluie en plein fin fond creux de l'Auvergne, en pinçant, puis en me disant, je suis en train d'écouter les VHS de Saturnin chez le Sébarier. Tu vois, bon, donc il y a des thèmes d'émissions pour enfants, Oum le Dauphin de Michel Legrand. On m'appelle Oum le Dauphin, avec sa voix dans son mélodie aquatique. Il y avait le jeune Fabre aussi qui était chanté par Demis Roussos, le peintre des étoiles. Non, non, ni, non, 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 ni, non, non. C'est que des modulations. Non, non, ni, non, non. Et un jour, en 74, j'ai 10-11 ans, et là, j'entends la complainte du pop en Alaska de beau dommage. Catastrophe. Ma vie vient de changer en 3 minutes. Boum! Non seulement j'ai compris le texte, j'ai compris l'allusion, la métaphore, le deuxième degré, mais j'ai compris que jamais plus je n'écouterai les chansons des palmarès.
Dans un cirque aux États. Le phoque est tout seul. Il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier.
Après ce retour en arrière dans les années 70 avec Monique Giraud, je lui ai demandé ce qu'il fallait écouter aujourd'hui.
J'ai dit à mes collègues, Navi, j'écoute du Miles Davis, allez voir. Ça tourne 3 fois par jour à IC Musique. Depuis un mois, tout le monde est énervé. Navi, Navi par-ci, Navi par-là.
C'est comme ça. Tout ne tient qu'au détail. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse.
Depuis le coucher copain en octobre, que je leur parle de ma vie, je souris béatement et je suis très heureuse de ça. C'est devenu ma vie que les personnes connaissaient ça au mois de septembre. Maintenant, ça tourne vraiment, vraiment régulièrement chez nous. Puis chez vous, il n'est pas connu à part à France Inter. Hein. Feu de Chatterton. Tu connais Feu de Chatterton? Feu de Chatterton? Alors ça, c'est la nouvelle affaire après Fauve. et j'écoute Boeing et je fais wow, qu'est-ce que c'est ça?
Tête de tôle, mais lesquelles qui crient quand siffle le nickel au ciel? C'est drôle, non plus de densité. C'est drôle, non plus de densité. Boeing, Boeing.
Voilà, et bien voilà comment j'ai passé une heure avec Monique Giraud. Une heure remplie de chansons entre C. Jérôme, Lisa Leblanc, Juliette Gréco ou encore Navi. Une heure avec une femme passionnée et passionnante.
Guitare de Libéré vous emmène au restaurant. Notre journaliste Tayawan vous présente une initiative dont le but est de mettre de l'avant la gastronomie française.
C'est la deuxième fois que l'événement Goût de France se déroule à Québec, pour le plus grand bonheur des fins gourmets d'ici. Plus d'une quinzaine de restaurateurs y ont participé. L'objectif, proposer un menu complet, avec un apéritif, une entrée, un plat et un dessert. Le tout inspiré d'une recette typiquement française. Nous avons rencontré le propriétaire du restaurant Européen en centre-ville, dont le savoir-faire à la française reste très présent en cuisine. Écoutons ce qu'il a à nous dire.
Bon, ça fait quelques années maintenant qu'on le fait, depuis que l'initiative a été lancée. Bien entendu, c'est important, on renifle nos origines, on est français et on veut mettre la gastronomie française de l'avant. Comme on le fait quotidiennement, parce que nous, on est quand même, même si on est au Québec et qu'on est des fervents défenseurs des produits québécois, notre manière d'utiliser ces produits-là, notre savoir-faire est 100% français. Donc, il est certain qu'on est toujours dans l'âme de la gastronomie française à 100%. Comme on le fait tous les jours, en fait, tout ce qu'on a fait, c'est essayer de promouvoir un petit peu plus. On offrait un apéritif qu'on estime typiquement français, qui était un vrai kir vin blanc, tout simplement, avec de la vraie crème de cassis de la maison Chartron en Bourgogne, avec un Bourgogne à ligoter comme il se doit en termes de blanc à l'intérieur. Et après, ben, tout ce qui est plus classique sur notre menu.
Sachez que l'événement Goût de France revient l'année prochaine. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de goûter au menu français préparé par les restaurateurs sélectionnés, vous pourrez vous rattraper l'année prochaine. C'était Tahia au micro de L'Outarde Libérée.
C'est ainsi que se termine votre nouveau podcast mensuel de L'Outarde Libérée. À dans un mois donc, et rappelez-vous que si en France le canard est enchaîné, au Québec, l'outarde est libérée.